le magazine des Nations Unies.
Processus électoral en RDC, Lila Zerougui s'en tient à son mandat, un des bons offices, et réitère l'appel au consensus entre les acteurs politiques congolais. La chef de la MONUSCO rassure en même temps quant à l'implication de la mission dans la lutte contre Ebola dans le territoire de Beni. Désormais, les juridictions militaires diront le droit dans un cadre idéal à Goma. Un édifice comprenant une salle d'audience leur a été remis officiellement par la MONUSCO. Édifice financé entièrement par la mission onusienne. Coût des travaux, 120 000 dollars américains. Enfin, environnement, un programme financé par l'Union européenne et mis en œuvre par WWF et Oxfam et bien d'autres partenaires, concilie bien activité agricole des communautés riveraines et conservation de la faune et flore du parc de la Salonga. Les détails dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine des Nations Unies. Il revient aux Congolais de trouver un consensus sur les divergences concernant le processus électoral. Mon mandat est très clair, c'est la mission des bons offices. C'est en tout cas ce qu'a déclaré en substance la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU au cours d'une conférence de presse mardi dernier à Kinshasa. Lila Zerougui a par ailleurs exprimé sa préoccupation à la situation de Beni et réaffirmé l'engagement de la MONUSCO dans la riposte contre Ebola et la sécurité dans ce territoire. Les détails avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Le processus électoral avec, en toile de fond, les divergences autour de la machine à voter et le fichier électoral ainsi que la situation sanitaire et sécuritaire à Beni ont été les principaux points abordés par la chef de la MONUSCO. Concernant le processus électoral et les divergences autour de certains sujets, Lila Zerougui définit son rôle.
Et c'est à moi qui peut imposer et dire vous devez faire 1, 2, 3. C'est pas mon rôle. J'ai un mandat de bons offices sur les élections, puis logistique et technique. Je ne suis pas une force d'occupation en RDC.
La situation de Beni préoccupe également la chef de la MONUSCO. Elle affirme l'engagement, voire l'appui de la mission onusienne à la riposte contre l'épidémie à virus Ebola qui a atteint jusqu'ici plus de 200 victimes.
Nous n'avons pas un centime dans notre budget qui est destiné à l'Ebola. C'est vraiment des décisions qu'on a prises. On a décidé de mettre tous les moyens face à l'Ebola sans mettre les moyens, surtout logistiques, de la MONUSCO. C'est un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre.
Le dialogue avec les ADF peut-il être envisageable pour rétablir la paix à Beni? Pas pour obtenir les dividendes politiques, mais des pressions sur ce groupe armé.
Toutes les options qui peuvent mettre pression sur un groupe armé pour déposer les armes. Mettre pression pour déposer les armes, ce n'est pas dire il faut des négociations politiques avec ADF.
Notons que Mme Zerougui doit se rendre dans les toutes prochaines heures à Beni en compagnie du ministre de la Santé publique.
Lila Zerougui s'est rendue à Beni et a félicité toutes les équipes engagées dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Lila Zerougui a rassuré également les populations de Beni de l'implication de la MONUSCO dans l'éradication de cette maladie qui, selon elle, freine les efforts de pacification dans cette contrée. Autre actualité, une cinquantaine de techniciens du service des transmissions et des télécommunications de la police nationale à l'école du savoir, ceci à la faveur d'un séminaire de 2 semaines axées sur le renforcement de leurs capacités en cette période de processus électoral grâce à l'appui de UNPOL, la composante police de la MONUSCO. Le coup d'envoi de ce séminaire a été donné mercredi dernier au commissariat général de la PNC à Kinshasa. Le commissaire supérieur principal Soukami Elaya Makumbu, directeur chef de transmission et télécommunication de la police, revient ici sur l'importance de cette formation. Il est au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Il s'agit d'un séminaire de renforcement des capacités de techniciens en transmission et télécommunication. Là, il y a 2 catégories. Nous avons d'une part les exploitants et d'autre part les maintenanciers. Il n'y a pas de commandement sans transmission. Le chef, il est placé à un échelon très élevé. Il a des collaborateurs un peu partout, donc pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Lorsqu'il a besoin, par exemple, de donner certaines instructions, lorsqu'il a besoin de contacter un cadre précis pour une information précise, il ne doit pas envoyer un estafette ou bien quelqu'un prenant un taxi-bus ou une moto aller le chercher à Kingasani. Mais lorsqu'il a des appareils de communication entre ses mains, il suffit tout simplement d'appeler, que ce soit ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, il a tout ça.
Et donc ça facilite les commandements.
Ça facilite le commandement. La transmission, c'est l'outil du commandement. Sans transmission, le commandement risque d'avoir beaucoup de problèmes.
Le colonel Martin Fay, chargé des opérations à UNPOL, a représenté la MONUSCO à cette cérémonie. Il sera notre invité dans quelques instants. Parlons environnement à présent. Depuis quelques années, la faune et la flore du parc national de la Salonga sont menacées à cause du braconnage et de l'exploitation illégale des forêts. Comment concilier d'une part la protection de l'environnement, des aires et espèces protégées, et d'autre part les potentialités du développement agricole en faveur des populations riveraines qui tirent l'essentiel de leur substance de ce parc? Jean-Pierre Elalikoko aborde la problématique en s'appuyant sur l'expérience unique d'un programme financé par l'Union européenne et exécuté sur le terrain par l'ONG internationale Oxfam. Suivez.
Ruée de la clientèle sur des sacs de cossettes de manioc, des riz, de maïs et des haricots dans l'un des ports de Ndolo. Les vendeurs, ce sont des paysans riverains du parc de la Salonga, dans le territoire des Dekissé, en province du Kassai. Leur voyage aura duré 10 jours à bord du MB, ville des Dekissé Express. Paul Bassengoja, président du comité des ventes des produits, raconte.
Oui, nous avons apporté des maïs, des manioc, des riz, des champignons, des cocos aussi.
Des chenilles aussi.
Des chenilles aussi.
Ces produits agricoles sont en fait le fruit du programme agricole rural pour la conservation du complexe de la Salonga, un programme financé par l'Union européenne. En aval, l'OSFAM assure l'encadrement agricole des communautés riveraines. Raphaël Mbouyi, directeur de programme Province Ouest à OSFAM, explique cet accompagnement.
Nous commençons d'abord par sensibiliser les communautés, les ménages. Nous les encadrons avec des formations. Après ces formations, nous les appuyons avec une mise à disposition des semences. Le deuxième volet, nous les accompagnons dans le processus de stockage. Nous facilitons les voies de communication pour l'évacuation des produits. Nous mettons également à leur disposition les moyens de transport adaptés. Au finish, nous les accompagnons comme organisation paysanne à faire des commercialisations groupées.
Résultat, 126 tonnes de produits drainés en une seule descente dans la capitale. Autre résultat. Les communautés se désintéressent peu à peu au braconnage et à l'exploitation forestière au profit de l'agriculture. Par conséquent, la protection de la biodiversité du parc de la Salonga devient petit à petit une réalité. Et le programme qui s'étend sur 4 ans, un pari gagné. L'Union européenne et le WWF ont signé en décembre 2016 cet accord de financement. Alain Huart, coordonnateur forêt-agriculture à WWF, RDC.
Là, l'Union européenne a doté de moyens un programme d'ambition importante avec un financement de l'ordre de 17 millions d'euros pour mettre en œuvre un programme qui se trouve à la fois dans le parc, pour protéger le parc et autour du parc. Donc on peut dire qu'à peu près la moitié des moyens concernent le parc proprement dit, la biodiversité, etc., la gestion managériale du parc, et l'autre moitié concerne des actions en faveur de la population.
Le parc national de la Salonga est situé dans le bassin du Congo et s'étend entre les provinces du Kassai, de Maïndombe, de la Tuapa et de la Tchopo. Avec ses 36 000 km², il est le plus grand parc national et forestier du continent africain. Créé en 1970, il est classé au patrimoine mondial en 1984.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une cinquantaine de journalistes des médias de Kinshasa ont pris part jeudi 4 octobre 2018 à un atelier sur le rôle des médias dans la promotion des femmes, la paix et la sécurité préconisé par les résolutions 13-25. Un atelier organisé par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec The Global Network of Women Peacebuilders. En marge donc de ce forum, le magazine des Nations Unies s'est entretenu avec Madame Adine Omokoko et le secrétaire général de CAFCO. Suivez son entretien avec Rémi Senga Kalala.
Madame Adine Omokoko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez d'organiser un atelier sur la résolution 1325 avec les journalistes. En fait, la résolution 1325, c'est quoi, madame?
La résolution 1325/2000 est une des résolutions parmi tant d'autres de Nations Unies qui parle de femmes, paix et sécurité. C'est une résolution qui a vu le jour au regard de tous les sévices qu'ont vécu les femmes dans les zones des conflits armés, notamment la RDC qui a connu plus d'une décennie de guerre, et le Conseil de sécurité des Nations Nations Unies a estimé qu'il fallait quand même, pour arriver à trouver de voies et moyens pour les résolutions de conflits dans ces zones, prendre une résolution pour permettre à ce que toutes les parties prenantes dans un conflit armé puissent avoir un regard particulier sur la promotion, la protection, la prise en charge et la prise en compte de la participation de la femme dans le seuil de décision pour arriver à trouver la paix dans ces zones de conflit.
On parle beaucoup de cette résolution. Quelle est sa particularité?
Sa particularité, c'est qu'elle met en phase l'aspect genre, où la femme doit être considérée comme partie prenante à tout le processus de paix, où la femme doit prendre une place là où les hommes discutent pour trouver la paix, là où les questions sexo-spécifiques liées au genre, particulièrement à la femme, doivent être prises en compte lorsque l'on négocie pour trouver les résolutions des paix dans une zone de conflit.
Alors, madame, 18 ans après, quel bilan en termes d'application pouvait faire de cette résolution à travers le monde en général et en particulier en RDC?
Je parlerai plutôt de la RDC parce que nous évoluons ici. Le bilan, il est progressif parce que déjà après que cette résolution a été adoptée aux Nations Unies, les pays membres dont la RDC ont eu l'obligation de faire en sorte qu'il y ait un plan d'action national qui accompagne la mise en œuvre de cette résolution. Et très progressivement au niveau de la RDC, nous avions eu un plan d'action national et très récemment, ce plan d'action national devait être exécuté par un secrétariat qui a été institué au niveau du ministère du Genre, Famille et Enfants, et dans lequel le secrétariat a produit un document, une stratégie pour accompagner la mise en œuvre de cette résolution au niveau des institutions de la République et dans tous les aspects qui touchent la gouvernance du pays.
Quel est exactement le rôle que vous jouez, vous, CAFCO, dans la promotion de la femme, disons dans la promotion de cette résolution, la 1325?
Le CAFCO, comme structure de la société civile, ne peut jouer que le rôle de sensibilisateur. Nous sensibilisons sur la résolution 1325, d'où des assises d'évaluation de cette semaine. Nous vulgarisons la résolution. Voilà pourquoi nous avons associé les femmes qui œuvrent dans les médias pour qu'elles puissent être nos mains de relais pour atteindre un plus grand nombre de femmes au niveau de la population congolaise, afin qu'elles sachent qu'il y a une résolution qui parle pour leur sécurité, il y a une résolution qui intéresse la femme au plus haut point dans la gouvernance de la chose publique, il y a une résolution qui parle de la femme comme partie prenante dans un processus de maintien de paix. Donc, le rôle que nous jouons, c'est de vulgariser pour que nous puissions atteindre un grand nombre de femmes, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble dans la communauté.
La résolution 1325, comme bien d'autres résolutions, est une émanation des Nations Unies. Est-ce que CAFCO est en partenariat avec les Nations Unies, avec les agences onusiennes?
Oui, le CAFCO travaille en partenariat avec les agences du système des Nations Unies. Nous sommes appuyés ponctuellement par rapport à chaque agence selon les termes de référence qui sont le sien et selon ses actes d'intervention. Donc, CAFCO travaille en partenariat, mais du moins, ce n'est pas un partenariat permanent. Il faudrait que nous puissions arriver à consolider cela.
Oui, vous travaillez en partenariat avec des agences des Nations Unies. J'imagine également avec la MONUSCO qui est une mission onusienne en RDC. Alors, dans quel domaine CAFCO aimerait obtenir l'apport de cette institution, par exemple, en cette période préélectorale?
Bon, déjà, je dois dire que la MONUSCO a accompagné les femmes congolaises par CAFCO en 2007 dans l'évaluation du processus électoral de 2006 et en 2011 aussi. Je dis que ce sont des actions ponctuelles que nous arrivons à faire avec nos partenaires du système des Nations Unies. Et donc, toute action dirigée vers les femmes que les Nations Unies ou la MONUSCO pourraient appuyer, CAFCO ne pourrait que recevoir de bon cœur et estimer que cela va aider pour faire la promotion de la femme.
Nous sommes en période préélectorale. Est-ce que CAFCO, par exemple, aimerait dans ce domaine-là avoir un apport de la MONUSCO pour les femmes?
Bien sûr, pour les femmes. Vous savez que la pauvreté se conjugue au féminin partout dans le monde et en RDC particulièrement. Nous avons pour mission d'aider les femmes à se promouvoir dans les lieux de prise de décision et entre autres de participer aussi au processus électoral. Mais il se fait que les femmes n'ont toujours pas assez de moyens pour arriver à briguer les mandats électoraux. C'est pourquoi nous pouvons solliciter à ce que les femmes puissent être accompagnées, celles qui sont déjà enregistrées dans les listes électorales comme candidates. candidate, qu'elle puisse être accompagnée pendant cette période de campagne électorale qui est en train d'arriver, qu'elle soit outillée par des formations, qu'elle sache comment se présenter vis-à-vis de son électorat pour arriver à drainer les voix. Et aussi, nous voulons que, si cela rentrait dans l'agenda de la MONUSCO, accompagner les femmes dans les médias, parce que vous savez que les organes de presse coûtent pour les femmes. Nous voulons que les femmes puissent avoir des espaces médiatiques pour qu'elles puissent présenter leurs programmes, faire leur campagne et qu'elles puissent être soutenues dans ce sens. Et nous souhaitons que les grilles de programme puissent être adaptées pour que les femmes puissent aussi s'afficher et faire prévaloir de ce qu'elles ont comme ambition pendant la période électorale.
Madame Adine Omokoko, Radio Capi vous remercie.
Merci beaucoup.
Ouvrons cette page de nouvelles par ce cri d'alarme des humanitaires. Dans un communiqué, la coordination des affaires humanitaires OCHA révèle que plus de 257 000 Congolais renvoyés d'Angola entre le 1er et le 15 octobre et rentrés par les postes frontaliers du territoire de Chikapa au Kasaï ont été victimes des violences. OCHA déplore également leurs conditions de vie actuelles, tandis que le SR redoute une crise humanitaire. Et selon toujours OCHA, les besoins en termes de transport, d'eau potable, des soins de santé sont urgents. Ces ressortissants congolais manquent aussi d'abris et de vivres. Santé à présent, le ministre de la Santé, Oli Lunga Kalenga, a présenté jeudi dernier à Beni le nouveau plan de riposte contre la maladie à virus Ebola. Objectif de ce nouveau plan, renforcer les capacités de la réponse pour tous les axes stratégiques dans les foyers actifs afin de mettre fin à l'épidémie d'ici novembre 2018, poursuivre les activités de surveillance, d'engagement communautaire, des prises en charge psychosociales, de prévention et de contrôle des infections dans toutes les zones de santé touchées jusqu'au fin janvier 2019. Enfin, à Ouvira, dans la plaine de la Rosizi, les acteurs locaux, étatiques et non étatiques, dont des jeunes et des femmes, ont réfléchi à Sangué précisément sur les nouveaux mécanismes de protection des populations civiles locales. C'était au cours d'un atelier de 3 jours, organisé par la section des affaires civiles de la MONUSCO. Cet atelier est intervenu à la suite de la fermeture de la base de la MONUSCO à Moutaroulé. Fermeture dictée par contraintes budgétaires et par le retour d'un climat de confiance entre les communautés dans la région, d'après la mission onusienne.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous l'avions annoncé dans le sommaire, notre invité de ce jour est le colonel Martin Faye, chargé des opérations à la composante police de la MONUSCO. Il a donc lancé avec les autorités de la PNC le séminaire de formation des techniciens du service des transmissions et télécommunications de la police nationale congolaise. Il s'est confié à Jean-Pierre Lally Coco. Suivez leur entretien.
Colonel Martin Faye, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Vous pouvez nous dire le pourquoi de ce séminaire?
Donc la police MONUSCO est ici aujourd'hui pour l'ouverture d'un atelier de formation en maintenance et en exploitation de télécommunications, donc au profit de la PNC, de la police nationale congolaise. Cet atelier va durer 2 semaines, au cours desquelles les apprenants recevront les rudiments nécessaires à l'entretien, à la maintenance et à l'exploitation de cet outil qui va leur servir énormément, particulièrement dans le cadre de la sécurisation du processus électoral, processus vers lequel nous nous acheminons inexorablement.
Et lorsqu'on voit un policier congolais apprendre les techniques des opérations de télécommunications et des transmissions, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? À quoi consistent ces techniques-là et pour un policier congolais?
Vous savez, pour être efficace dans l'exécution des missions policières et militaires, les communications jouent un rôle prépondérant. On ne peut rien faire sans les transmissions, particulièrement en matière de services de police. Donc, ils vont apprendre les différentes techniques qui leur permettront de maintenir, d'assurer la maintenance de ces moyens. Parce que s'ils ne savent pas entretenir les moyens qui sont mis à leur disposition, tout va se détériorer très rapidement et on va vers une incapacité de les utiliser. L'autre aspect, c'est l'exploitation. Avoir un outil entre les mains et ne pas savoir l'exploiter, l'outil ne servira plus à quelque chose. Donc nous avons pensé jumeler les deux pour leur assurer une bonne capacité de maintenance, mais aussi leur donner tous les rudiments nécessaires pour qu'ils soient efficaces dans l'exécution de la mission qui leur sera confiée.
Parler de télécommunication au sein de la police, il faut penser aussi aux moyens. Est-ce que la MONUSCO, dans les cadres de l'appui que vous apportez à la police nationale congolaise, est-ce que vous avez pensé aussi à des moyens matériels ou techniques pour qu'ils puissent, les policiers puissent bien faire leur travail, justement cette période du processus électoral?
Effectivement, donc pour cet appui, l'appui que nous sommes en train de faire actuellement dans le cadre du processus et surtout dans le cadre de la formation, donc de renforcement des capacités de la PNC. Pour ce qui est des moyens additionnels qui pourraient être mis à la disposition, je laisserai des voix plus autorisées que moi.
Après cette formation, est-ce que la police de la MONUSCO Yann Paul envisage de faire d'autres formations comme ça, comme celle-ci, au niveau national, c'est-à-dire dans d'autres provinces?
Nous sommes disposés à le faire, donc notre objectif c'est d'avoir une police beaucoup plus performante et plus de capacité à remplir sa mission. Et pour ce faire, nous sommes vraiment disposés à continuer cette formation aussi bien au profit des éléments de la PNC qui sont à Kinshasa qu'au niveau des provinces. Tout à l'heure, le directeur des télécommunications de la police en a exprimé le besoin et nous allons étudier la possibilité. Mais le plus important est de former ici des formateurs relais qui seront en mesure après de dupliquer cette formation au niveau aussi bien provincial qu'ailleurs. Donc c'est des formateurs relais qui vont être formés et qui pourront après divulguer ces connaissances, partager ces connaissances avec leurs autres collègues.
Et pour terminer, colonel, un mot aux apprenants et même à la police nationale congolaise, dans le cadre bien sûr de votre collaboration avec la police et disons le gouvernement congolais.
Remercier la police congolaise pour la franchise de la collaboration. Nous avons d'excellents rapports avec la police nationale congolaise qui nous facilite donc cet appui. Parce que nous sommes là pour les appuyer, pour renforcer les capacités. Mais s'ils n'ont pas la volonté de collaborer, ça ne peut pas marcher. Heureusement, fort heureusement, ils sont vraiment disposés à recevoir cette formation, à collaborer franchement avec nous. Et pour à l'endroit donc des apprenants, je dirais de s'investir pleinement pour acquérir le maximum de connaissances, parce qu'un policier bien formé est utile à son pays, mais un policier qui n'a pas la formation requise ne pourra pas être utile à son pays.
Colonel Martin Faye, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et notre nouvelle de province partira de Goma, où la MONUSCO a remis officiellement, lundi dernier, une salle d'audience aux juridictions militaires de Goma. Cet édifice a été construit sur fonds propres de la mission à travers sa section d'appui à la justice congolaise pour au moins 120 000 dollars américains. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités des juridictions militaires et de la MONUSCO. Gabriel Wamenya nous peint les caractéristiques de cet édifice.
L'ouvrage est constitué d'une salle bâtie sur une superficie de 24 mètres sur 14 de largeur. Il est aussi doté de deux cellules de détention pour les potentiels prévenus des crimes graves tels que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et ceux liés au génocide. Selon les bénéficiaires du projet, c'est désormais dans cet espace qui s'apparente à une œuvre d'art peint entièrement en jaune que vont se dérouler les audiences qu'organiseront les hautes juridictions militaires de la province. Sur la partie réservée au prétoire de cette salle, on peut voir l'emblème d'une balance symbolisant l'équité et l'égalité de tous devant la loi, mais aussi on peut facilement lire en caractère gras « Nous jugeons nos semblables ». Ici, l'auditeur supérieur opérationnel Ndaka Mbwezi Hippolyte revient sur les motivations qui ont conduit à la construction de cet édifice.
Nous pouvons commencer par la genèse de la construction de cette salle. Par la résolution 1925, le Conseil de sécurité a conféré à la MONUSCO la mission d'appuyer la justice dans les poursuites des crimes graves sont les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dès lors que vous commettez une infraction, on vous appelle criminel.
L'un des plus grands atouts de cet ouvrage, c'est le fait qu'il réponde tant soit peu aux normes des standards internationaux tels que recommandés par l'administration pénitentiaire. En effet, le responsable de la section d'appui à la justice de la MONUSCO à Goma a affirmé que c'est en prélude à l'organisation d'un procès le plus attendu par les autorités ainsi que la population congolaise que ce projet a été matérialisé. Madame Margaret Chuma a réaffirmé la volonté de la MONUSCO à respecter les standards internationaux en matière de détention, non seulement par la construction de cet ouvrage, mais aussi les réaménagements des cellules dont tout est mis en place pour les besoins essentiels d'un être humain privé de liberté.
On s'est assuré que les standards sont respectés en termes d'espace, en termes d'aération de lumière du jour, de lumière naturelle. Et puis, il y a des toilettes incorporées, c'est des cellules individuelles. Et puis aussi, ils ont la possibilité d'avoir accès à une cour de promenade.
Margaret Chuma a ajouté qu'il y aura aussi un personnel médical qui sera affecté à la cour pendant les procès pour se rassurer de l'état de santé des prévenus, mais aussi du suivi et du respect des normes qui répondent aux standards internationaux. Pour les chefs des bureaux intermédiaires de la MONUSCO à Goma, cette salle d'audience devra servir à organiser les procès le plus palpitant. Cet ouvrage a poursuivi ses responsables, constitue la pierre angulaire dans la lutte contre l'impunité en RDC, telle que décriée par les organisations tant nationales qu'internationales de défense des droits de l'homme, ainsi que la communauté internationale. Patrick Spinoy.
Cet édifice est un bâtiment de justice qui va servir pour faire justice dans un endroit bien sécurisé.
Rappelons que ces bâtiments dotés de 2 toilettes et de 2 douches avec 2 chambres garnies de 2 lits et d'un salon pour les visiteurs a été construit à hauteur de 120 000 dollars américains. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Les actions menées par l'ADF à Beni sont-elles de nature terroriste? Suivez la question posée par un journaliste et bien évidemment la réponse de Madame Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO. C'était au cours de sa conférence de presse tenue le mardi dernier à Kinshasa.
Pauline Mouzalia pour la BBC. Ma question est toute simple, madame. Est-ce que la MONUSCO considère la menace des ADF comme étant de nature terroriste?
Qu'est-ce que c'est de nature terroriste? Vous savez que le monde ne s'est pas mis d'accord sur la définition du terrorisme. Chaque gouvernement, il a une définition de ce que c'est le terrorisme chez lui dans sa loi nationale. Mais nous considérons que les tactiques terroristes sont utilisées par ADF. C'est clair que quand vous venez, que vous attaquez à des civils, que vous tuez des civils, des enfants, que vous, des bébés parfois, bien sûr que c'est des tactiques et des activités des terroristes. Maintenant, l'ADF, c'est un mouvement terroriste? Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui le considèrent comme tel, y compris la RDC, et nous travaillons dans ce cadre-là. C'est un groupe qui attaque des civils, qui a tué des civils, qui use de tactiques et de pratiques terroristes, oui. Ça, c'est clair.
La minute humanitaire.
Et c'est l'heure de la minute humanitaire avec Jean-Pierre Elalikoko dans ce studio. Alors dites-nous, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on entend par principe de l'humanisme?
Effectivement, c'est le premier principe parmi les 4. Selon les principes de l'humanisme, l'aide humanitaire contribue prioritairement à alléger les souffrances humaines, où qu'elles soient. L'objectif de l'action humanitaire est de protéger la vie et la santé et garantir aussi le respect des êtres humains.
Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire?
Humanisme maintenant signifie que les humanitaires répondent à l'impératif de sauver des vies humaines en danger suite à une situation de crise comme la guerre, les catastrophes naturelles, les épidémies ou la famine. Si des personnes sont vulnérables ou ont besoin d'aide, les travailleurs humanitaires vont faire tout leur possible pour soulager leurs souffrances.
Et finalement, entre l'État et les humanitaires, à qui incombe la responsabilité d'apporter de l'aide?
Oui, Tina, c'est l'État qui a la responsabilité première d'assister les personnes dans le besoin. Les organisations humanitaires ont la responsabilité d'apporter du soutien aux efforts de l'État dans la réponse à une crise. Et c'est l'État qui donne aux organisations humanitaires l'autorisation d'aller apporter l'aide aux victimes d'une catastrophe ou d'une situation de crise. À titre d'exemple, Tina, au cours de la dernière épidémie d'Ebola en RDC, toutes les organisations humanitaires, ainsi que plusieurs agences spécialisées des Nations Unies, ont mobilisé leurs efforts pour apporter les vaccins, les personnels spécialisés, les moyens logistiques de transport et d'aménagement des camps pour appuyer le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de la riposte contre cette épidémie. Une riposte dans laquelle le ministre de la Santé a tenu les bâtons de commandement du début à la fin de ses opérations.
Merci Jean-Pierre Lally.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Un grand événement à retenir pour cette semaine. Le 24 octobre, c'est la Journée internationale des Nations Unies. Aussi, le 27 octobre, toujours bien évidemment, nous allons célébrer avec l'UNESCO la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mis en monde par Polydor Basonga, à la coordination, reportage et réalisation Jean-Pierre Elali Coco, au reportage également Honoré Missenga, sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se dit à bientôt sur Radio Capi. Ciao.